Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre, bonjour à tous. Et en ce jour de la Saint-Valentin, nous avons choisi aujourd'hui de parler d'Ovide. Ovide, dont on peut dire qu'il est l'un des premiers, si ce n'est le premier poète à s'être institué professeur d'amour, avec les amours et l'art d'aimer notamment, et puis même aussi dans un certain sens avec les métamorphoses, ce cycle mythologique dans lequel il va donner à l'amour une coloration peut-être un peu plus universelle, qui implique cette fois non seulement l'amour humain, mais aussi l'amour des dieux. Et puis vous allez l'entendre, ses observations et ses conseils, même s'ils peuvent parfois prêter à sourire, eh bien ses conseils sur l'amour ne perdent rien de leur actualité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on continue aujourd'hui de le traduire et s'il inspire encore les artistes les plus divers, que ce soit des musiciens, des peintres ou bien entendu des écrivains. Voilà pourquoi il nous a semblé nécessaire aujourd'hui de retracer son parcours artistique et puis aussi de raconter ce que l'on sait de sa vie. L'amour des métamorphoses, c'est un documentaire d'Alain Nicolas et de Laetitia Coya.
Ovide est un poète qui s'adresse à l'homme en tant qu'individu. Et il dit à chaque individu de l'Empire romain, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, de penser ce que tu veux.
Daniel Robert, vous avez dans cette énorme entreprise de traduction vécu des années en compagnie d'un certain Publius Ovidius Naso, plus connu sous le nom d'Ovide. Qui était Ovide ?
Ovide est un jeune homme qui appartient à la noblesse équestre. Il est originaire des Abruzzes, il est né dans une petite ville qui s'appelle Sulmona, Sulmo en latin. Et il a très vite vécu à Rome avec sa famille, Sulmona étant pour eux une résidence secondaire par la suite. Il a fait des études, comme tout jeune noble les faisait, très sérieuses, avec un voyage en Grèce à la clé à l'âge de 18 ans. Et évidemment, il était destiné par sa famille à la carrière de la magistrature, comme tout jeune homme distingué le faisait. Il a donc commencé ses études, mais très vite il les a abandonnées. Et il dit lui-même dans Les Tristes que tout ce qui l'intéressait, c'était la poésie, dès l'adolescence, et que tout ce qu'il essayait d'écrire était des vers. Donc c'est une vocation un peu innée, si on peut dire. En tout cas, il a été obligé d'affronter tout de même son père, qui trouvait que ce n'était pas du tout une carrière intéressante. Il lui disait même « Homère lui-même n'y a rien gagné ». Et Ovide a quand même persisté dans la volonté d'être poète et uniquement poète.
Alors comment devenait-on poète à Rome, donc à la fin du 1er siècle, sous Auguste ?
Il fallait d'abord appartenir à un certain milieu, donc il fallait avoir appris à lire et à écrire, ce qui n'était pas le cas de la majorité des Romains. Il fallait être introduit un peu dans les milieux littéraires, ce qui a été le cas pour Ovide, qui a rapidement connu Messala et son cercle, et tous les poètes de l'époque, c'est-à-dire Virgile qui est un petit peu plus âgé, mais Tibulle et Properce surtout, Cornelius Gallus et d'autres moins célèbres. Et il est entré tout naturellement dans ce cercle et comme cela se faisait à l'époque, il a participé aux nombreuses lectures publiques ou privées au cours desquelles les poètes d'ailleurs essayaient leurs œuvres. Ils écrivaient leurs poèmes, ils les disaient en public devant leur père et devant un public de gens lettrés, et ils les modifiaient en fonction des réactions de leurs amis et du public, et ensuite seulement, ils passaient à la publication.
Allez au large, gens austères, vous n'êtes pas le public qui convient aux mélodies d'amour. Mes lecteurs sont la jeune fille qui, devant son fiancé, n'est pas froide, l'adolescent, novice, touché par un amour inconnu. Ovide annonce la couleur et tient ses promesses. Il se veut, il sera, il restera le poète des tendres jeux amoureux. Connu très jeune pour des amours d'une inspiration déjà très personnelle, il invente avec les héroïdes le roman d'amour par lettre, puis le premier manuel de séduction, L'art d'aimer. Et quand ce poète né, qui dès ses premiers vers connaît le succès, quand l'écrivain adulé, familier des cercles les plus en vue, se veut l'égal des plus grands et compose une œuvre qui remet en jeu toute la fiction mythologique de son époque, c'est l'amour qui en constitue le matériau principal. Comment ce libertin se mue en un animal littéraire et peut-être libertaire, comment il en sera châtié et ce qu'il fera de son exil même, voilà les pistes que nous suivrons. Nous y rencontrerons, de siècle en siècle et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui, écrivains, artistes, musiciens, y ont trouvé un réservoir inépuisable d'épisodes où impermanence et transformation nourrissent une conception baroque de l'art et du monde étonnamment contemporaine. Les surprises ne manqueront pas. Qu'attendre d'autre de celui qui faisait dire déjà à Montaigne le premier goût que j'eus au livre, il me vint du plaisir des fables de la métamorphose d'Ovide.
Alors on a une trace d'une œuvre perdue qui est une tragédie, qui est une œuvre de ses débuts.
Médée.
Mais il a été très vite connu pour Les Amours, qui est une œuvre de genre, si on peut dire.
Oui, c'est un des premiers recueils qu'il publie, Les Amours. Parallèlement à cela, il écrit également Les Héroïdes. Et très rapidement, il a fait partie des poètes les plus en vue de sa génération, et très adulé, très très rapidement. Le texte a tout de suite plu. C'est un texte, enfin un ensemble de textes assez légers, d'inspiration. Bien sûr, le thème central en est l'amour. Il y raconte ou il parle de ses relations avec une jeune femme qu'il appelle Corinne, qui probablement regroupe plusieurs jeunes femmes qu'il a dû connaître en réalité, comme cela se faisait à l'époque d'ailleurs. Et Corinne lui permet d'évoquer tous les sentiments que l'on peut éprouver lorsqu'on est amoureux, de l'exaltation la plus vive, du désir le plus extraordinaire, jusqu'à la déception, à la jalousie, la colère. Voilà, il explore dans le recueil un peu tout ce qui appartient à l'éros. Il met dans les textes, sous la dénomination de Corinne, certainement des choses qu'il a connues et vécues, également des choses qu'il a lues. Il y a en même temps une mémoire littéraire de ce que les autres poètes, les poètes qui l'ont précédé, ont écrit sur l'amour, et il fait une sorte de composition entre ces textes, ce qu'il connaît, lui, de l'amour, et cela donne son poème personnel.
Oui, il y a même des épisodes, je ne sais pas si on peut dire des chapitres. Enfin bon, par exemple, il y a un moment où il y a l'avortement de Corinne, qui est quand même quelque chose d'assez douloureux.
Je n'ai pas d'autres exemples de poèmes qui aient traité de cette question sur ce mode dans l'Antiquité. C'est peut-être quelque chose qu'il a effectivement vécu. Là, je n'ai pas d'exemple d'imitation de quelqu'un, d'un autre poète.
Parallèlement, il s'attelle à un autre type de travail, la composition de lettres d'amour attribuées à des personnages de la mythologie.
Exactement. Alors, il dit qu'il est l'inventeur de ce genre, ce qui est vrai. Il existait bien sûr des lettres d'amour, il existait bien sûr des textes où il était question de personnages mythologiques, mais la lettre en vers écrite par un personnage mythologique à son amant ou à son mari ou à l'être aimé, sous cette forme-là, ça n'existait pas. Effectivement, il est le premier à avoir créé, surtout à en avoir fait un recueil complet. Là, Ovide fait œuvre originale parce qu'il choisit une quinzaine de femmes de la mythologie. Et puis, il y a par la suite 6 autres lettres qui, elles, sont écrites par des couples.
Oui, il y a des
Paris,
réponses.
Paris, Hélène. Voilà. Alors, et donc, ces 6 dernières lettres, qui sont plus tardives que les 15 premières, ont parfois été un petit peu sujettes à caution. On s'est demandé si elles étaient bien d'Ovide. Il semblerait que oui. Mais elles ont un caractère assez particulier. Il y a ces réponses qu'on ne trouve pas dans les autres. Et l'esprit n'en est pas tout à fait le même.
Oui, alors après, il y a effectivement ces lettres avec réponse, oui, et qui ne sont pas forcément sur le thème de la jalousie, mais plutôt sur le thème de la conquête amoureuse.
Voilà, de la séduction.
De la requête d'amour, voilà. Et alors là, c'est pas forcément la femme qui écrit la première. Par exemple, c'est Paris qui écrit à Hélène pour lui déclarer son amour.
Et là, on a l'impression que l'auteur reprend un petit peu les exercices de style qu'on faisait lorsqu'on voulait devenir poète et qu'on appelait les soisoriae, c'est-à-dire des textes persuasifs. Il fallait se mettre à la place de telle personne pour persuader le destinataire avec toute une série d'argumentations de ce que l'on souhaitait. C'était en général plutôt sur un plan juridique. C'était des exercices de un peu d'avocat. Et Ovide se sert de cet exercice pour une joute amoureuse, ou plutôt pour une entreprise de séduction. Alors Paris, effectivement, énumère à Hélène toutes les raisons qu'elle a de quitter son mari pour le rejoindre. Et Hélène, lorsqu'elle lui répondra, va lui donner aussi un certain nombre de raisons qui lui permettent de dire « attention, pas tout de suite
». Oui, voilà, elle garde quand même la porte ouverte. Voilà. Elle lui dit quand même que son mari va bientôt partir et que bon, ils en reparleront.
Voilà. Il faisait très chaud et l'on avait déjà passé la sixième heure. Je me mis au lit afin de me reposer. La fenêtre était mi-fermée, mi-ouverte, la lumière à peu près celle qu'il y a dans les forêts, ou la faible lueur lorsque Phébus s'en va au crépuscule, ou quand la nuit s'éloigne mais que le jour n'est pas encore levé. C'est la lumière qui convient aux jeunes filles honnêtes, celle où leur timide pudeur espère se réfugier. Voici que vint Corinne, enveloppée d'une tunique flottante, ses cheveux séparés couvrant la blancheur de son cou, comme la belle Sémiramis s'avançant vers la couche nuptiale, dit-on.
Ce qui est amusant aussi, ce sont les dialogues entre Ovide et les dieux, Ovide et Vénus, ou Cupidon qui s'adresse à Ovide dans les remèdes. Alors, dans les remèdes, c'est plus réaliste parce qu'il se demande si c'est pas une illusion du sommeil, cette apparition de Cupidon.
Christine Montalbetti.
Il y a cette manière dont le poète se met à dialoguer avec les dieux au sujet de l'amour, qui est aussi assez amusante. Et la manière aussi dont, malgré tout, même si cet art d'aimer est toujours, s'écrit toujours dans la nuance, il consiste aussi en une espèce de forçage incroyable, puisque à plusieurs reprises, et dans les conseils qu'il donne aux hommes, et ensuite dans les conseils qu'il donne aux femmes, il voudrait qu'on dise « Ovide était mon maître ». Et donc son nom apparaît, il y a une sorte d'effet de signature. Mais il y a aussi cette prise de pouvoir incroyable où il faut qu'au moment où on réussit sa conquête amoureuse, on rende grâce à Ovide de l'efficacité de ses préceptes. I'm falling in love with her. Hopelessly smitten and strangely driven. Déjà même, pourras-tu le croire, je suis entraînée vers un art jusqu'alors inconnu pour moi. Je veux, d'une course rapide, suivre aussi les bêtes fauves. Déjà ma première divinité est celle de Délos, dont la parure est un arc recourbé. De moi-même, je me soumets à tes goûts. Je voudrais parcourir l'étendue des forêts, presser le cerf dans les filets, exciter sur la cime des monts l'ardeur d'une meute. Je voudrais d'un bras vigoureux lancer le javelot tremblant ou reposer mon corps sur un frais gazon. Souvent, je me plais à diriger un char léger à travers la poussière et à faire sentir le frein à la bouche d'un coursier docile. Dans la lettre des héroïdes de Phèdre à Hippolyte, elle file le thème de la forêt. La forêt, c'est le lieu d'Hippolyte. Et elle dit qu'elle voudrait être elle-même à la chasse. Et il y a ce motif récurrent de la chasse, comme ça, qui fait écho aussi à l'art d'aimer, dans lequel, dans les remèdes, se divertir à la chasse est un des remèdes contre la peine d'amour. Et en même temps, la chasse, c'est aussi la métaphore pour la conquête. Alors on est dans une sorte d'espace paradoxal où on va, quand on littéralise la métaphore, se déprendre de son objet de conquête qui est devenu un objet malheureux. Et la forêt, c'est aussi ce lieu fantastique dans les métamorphoses où les arbres eux-mêmes avancent. Moi, je sais que tout ton cœur...
plus célèbre qui vient un peu après, donc c'est l'art d'aimer.
C'est un manuel de séduction, en fait, c'est une œuvre didactique. Et il va tenter d'expliquer d'abord aux garçons comment ils peuvent séduire les femmes, aux femmes comment elles peuvent séduire les garçons et les hommes. Et il se décide maître, professeur d'amour.
Le mot amour n'a peut-être pas le même sens qu'aujourd'hui. Il s'agit quand même plutôt d'arriver à une possession.
C'est ça, c'est une conquête, une possession, c'est même quelquefois plutôt une guerre en dentelle, si on peut dire. C'est une stratégie amoureuse, voilà.
Et avec un côté, effectivement, presque de guide, pas touristique, mais enfin bon, quels sont les lieux de drague les plus adaptés, les moments
oui.
Alors, donc c'est essentiellement le spectacle quand même.
Oui,
c'est
oui,
quand même
oui.
Le spectacle,
les jeux du cirque, voilà. Les spectacles, le théâtre.
Le cirque, c'est bien parce qu'il y a de la poussière qui vole et comme ça,
voilà.
On peut épousseter la belle à côté.
Voilà.
Et il dit même, s'il n'y a pas de poussière, époussette quand même.
Voilà.
Bon, il y a la question du mariage. La plupart du temps, il s'attaque à des femmes mariées, ce jeune
homme. Voilà. Il prend bien soin, d'un bout à l'autre de l'ouvrage, de dire qu'il ne s'adresse pas aux matrones, il ne s'adresse pas aux femmes dignes et honnêtes, qui ont leur vie de famille très réglée, mais aux femmes de mœurs plus légères. En fait, il s'adresse aux courtisanes, dit-il. Ceci pour être bien sûr de ne pas être accusé de tentative de débauche à l'égard des femmes honnêtes. En fait, toutes les femmes de la société romaine lisaient cet ouvrage. Mais il a bien soin de dire qu'il ne s'adresse pas à celles qui ont une moralité irréprochable.
Il y a malgré tout un double discours.
C'est un peu ambigu, oui. Oui, oui.
Il faut aussi faire la cour aux servantes, tant qu'à faire.
Oui, voilà. Bien sûr.
Et si possible, bon, si bien l'occasion sûr. Se présente, on peut aussi coucher avec la servante
bien
de
sûr.
La maîtresse.
Oui, ça, oui. Même si ça permet de se rapprocher de la maîtresse.
Voilà, donc tout est bon. Il y a très vite la question de l'abandon qui est posée, réciproque.
Ça, enfin, c'est constamment dans l'œuvre d'Ovide, oui. L'abandon, l'exil du cœur, le fait de ne pas être désiré comme on le voudrait et d'en souffrir.
Je crois qu'il y a quelque chose de très troublant dans la question du mode d'emploi à propos de l'art d'aimer. La liste de préceptes est quelque chose d'assez qui m'apparaît comme ça assez stérile. Au fond, ce qui est intéressant dans la relation amoureuse, c'est quand même l'improvisation, c'est quand même que ce soit différent d'une fois sur l'autre, c'est quand même d'essayer d'oublier ce qu'on pourrait considérer comme des constantes et qu'ils sont d'ailleurs pas forcément. Cela dit, ce qui est intéressant aussi dans l'art d'aimer d'Ovide, c'est qu'il prend en compte cette diversité. La question du hasard, la manière dont le hasard intervient dans les relations, la manière dont chacun peut aussi percevoir différemment les choses, et ce qui fait qu'il faut chaque fois ajuster sa conduite.
Voici qu'un lit complice a accueilli deux amants, muses. À la porte close de leur chambre, arrête-toi. Nul besoin de toi pour que se dise spontanément une foule de paroles, et la main gauche ne sera pas inactive dans le lit. Les doigts découvriront ce qu'ils doivent faire dans ces zones où l'amour, secrètement, plonge ses aiguillons. Ainsi faisait d'abord le valeureux Hector à Andromaque, et il ne fut pas utile qu'au milieu des combats. Ainsi à sa captive de Lyrnès, le grand Achille, quand, las de l'ennemi, il pressait un tendre renflement. Ces mains qui te touchaient, Briseïs, et que tu laissais faire, n'étaient-elles pas toujours teintes pourtant du sang phrygien? À moins que ce ne fût là ce qui te faisait jouir, coquine, sentir ces mains victorieuses sur ton corps. Crois-moi, il ne faut pas hâter la jouissance amoureuse, mais la retarder, la retenir, la faire venir lentement. Quand tu auras trouvé le point où une femme aime qu'on la caresse, la pudeur ne doit pas t'empêcher de la caresser. Tu verras l'éclat vacillant de ses yeux, qui brillent comme souvent sur l'eau limpide scintille le soleil. Et puis viendront les plaintes, puis un charmant murmure, de doux gémissements et les paroles propres aux ébats. Mais ne va pas conclure, à grand renfort de voile, avant ta maîtresse, ni la laisser te devancer. Touchez au but en même temps. La volupté suprême, c'est quand la femme et l'homme gisent vaincus tous deux.
Et puis, il a effectivement aussi fait le livre symétrique, d'une certaine façon, qui est le livre des remèdes,
à l'amour.
Comment voilà. arrêter d'être...
Voilà. Comment se débarrasser.
Voilà, ce qui veut quand même dire qu'il y avait quelque chose dont il fallait se débarrasser. Parce que oui. si on est dans la simple stratégie de possession, et bon, ben, c'est pas un problème, on peut passer à autre chose. Tandis que là, il y a manifestement quelque chose qui s'adresse aux jeunes gens qui sont réellement accrochés.
Qui sont réellement accrochés, oui. Ou dont les maîtresses sont trop accrochées et les jeunes gens veulent s'en défaire parce qu'ils veulent passer peut-être à autre chose. Donc, on est toujours là dans la stratégie et dans le jeu.
Alors là, il leur donne comme conseil... alors, tout est son contraire, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que tout marche.
Là, c'est du badinage.
Voilà.
Et c'était pour la société raffinée des Romains qui voulaient passer un bon moment et qui se lisaient ces textes. Mais sans... Non, c'est, là, Ovide lui-même prend ça comme un jeu.
Il semblerait quand même, Daniel Robert, que cette position de poète mondain, adulé mais superficiel, ne l'ait pas entièrement satisfait. Et son ambition le pousse à s'égaler au plus grand.
Ovide a l'ambition d'être l'équivalent de Virgile. Or, il ne va pas réécrire l'Énéide, il ne va pas écrire l'Odyssée ni l'Iliade, qui sont les grandes œuvres d'Homère. Il veut quand même faire quelque chose qui ressemble à une épopée sans marcher sur les brisées de ses prédécesseurs. Et il se dit, quel est le sujet qui peut me permettre de faire ça? C'est le sujet que je connais le mieux, c'est l'amour. Donc je vais parler des amours des dieux et des hommes, des femmes et des déesses. Et aussi, il se trouve qu'à l'époque où il écrit, les idées de Pythagore circulent, notamment les transformations, la notion de métamorphose est dans l'air, et il va décider de créer une œuvre immense en prenant dans le fond mythologique tout ce qui a rapport à la métamorphose et en montrant les transformations de corps en d'autres corps, dit-il, qu'il s'agisse de dieux qui se transforment en animaux ou qui prennent les aspects humains, ou d'hommes et de femmes qui sont transformés en végétaux, en animaux, ou même en minéraux. Et il va échafauder son œuvre à partir de là.
Alors, à première vue, quand même, on a l'impression, peut-être superficielle, qu'il y a un sens du temps, sinon de l'histoire, puisque ça commence... au chaos, et ça se termine avec la fondation de l'Empire.
Oui, oui, il le dit dès le départ, il part de l'origine du monde, qui est la Genèse, le chaos et l'ordre progressif qui a été celui de la nature, et il arrive à la fin, au 15e livre, à l'apothéose d'Auguste. En apparence, ça semble assez anarchique, assez désordonné. En fait, lorsqu'on y regarde de près, c'est très, très méticuleusement réfléchi par Ovide. Il ne prend dans le patrimoine culturel qu'il a à sa disposition que ce qui lui sert. Et il l'organise d'une certaine manière quand même, qui est assez parlante. Et en même temps... il suit ce fil conducteur du chaos jusqu'à l'apothéose de l'Empire, mais à chaque instant, il mine le propos et il glisse des choses, des détails, des idées qui surprennent un peu et qui font qu'on se pose des questions et qu'on se dit, est-ce que vraiment il est en train d'exalter la puissance d'Auguste. Et par exemple, lorsqu'il aborde des combats épiques comme celui des Lapithes et des Centaures, on a des scènes grand-guignolesques. Et là, il s'amuse en fait à parodier Virgile et à faire le contraire de ce que fait Virgile dans l'épopée. Ô Dieu, si vous êtes tant soit peu clément aux fautes avouées, j'ai mérité un châtiment sévère, je ne le refuse pas. Mais afin que laissée en vie je ne souille pas les vivants, ni mortes les défunts, chassez-moi des deux royaumes et soustrayez-moi à la vie comme à la mort en me transformant. La puissance divine clémente aux fautes avouées existe. Il y eut du moins des dieux pour entendre cet ultime souhait, car pendant qu'elle parle, la terre recouvre ses jambes, ses ongles se fendent et des racines, support d'un tronc élancé, en sortent obliquement. Ses os deviennent du bois qui conserve au milieu sa moelle. Son sang se transforme en sève, ses bras en grosses branches, ses doigts en petites. Sa peau devient écorce dure. Déjà, l'arbre, en poussant, comprime son ventre lourd, écrase sa poitrine et commence à recouvrir son cou. Ne pouvant plus longtemps attendre et s'offrant à la montée du bois, elle se laisse aller, son visage est englouti par l'écorce. Et bien qu'elle ait perdu avec son corps sa sensibilité de jadis, elle pleure encore et de l'arbre suintent des gouttes tièdes. Son honneur est dans ses larmes qui s'écoulent du bois. Elle leur donne son nom et l'on parlera à tout jamais de la myrrhe.
La métamorphose même pourrait peut-être dire que ça abolit aussi un peu cette différence de nature entre les mortels et les immortels.
Oui, exactement. Exactement, puisque les dieux se comportent exactement comme des êtres humains, et on ne dira pas que les êtres humains sont comme des dieux, mais enfin, il y a une grande communauté de comportements, d'attitudes entre les uns et les autres dans les métamorphoses.
La métamorphose elle-même est parfois vécue comme un châtiment totalement injuste et plutôt exemple plutôt de jalousie divine que de réel châtiment moral. Bon, les deux existent, mais...
Les deux existent, oui.
Mais si on prend par exemple un épisode qui peut-être est central, qui est celui de la lutte entre Arachné et Minerve, là il s'agit d'une compétition artistique.
Oui.
Et Minerve frappe.
Triomphe.
Elle triomphe parce qu'elle est la plus forte, mais pas parce qu'elle est la meilleure.
Bien sûr. Arachné prétend est considérée comme la meilleure fileuse du pays, mais Minerve est une déesse et elles vont toutes les deux s'affronter sur une tapisserie. Et Minerve déploie tout son talent pour montrer tout ce qu'il y a de grand dans l'art. Donc elle montre des dieux, des héros, des exploits, des scènes magnifiques. Et Arachné, au contraire, va faire la même chose que fait Ovide dans les Métamorphoses. Elle montre toutes les petites intrigues qu'il y a entre les dieux, leurs faiblesses, leurs imperfections. Elle fait l'anti-Minerve. Et évidemment, elle va être punie pour cela et Minerve va la transformer en araignée.
Oui, alors la métamorphose, c'est un châtiment, ça peut être aussi une façon d'assurer la survie d'un être aimé.
Oui, ça peut aussi le protéger. Et il y a certains personnages des métamorphoses qui demandent à être métamorphosés pour échapper à un danger, par exemple. Ce n'est pas pas toujours sous la forme d'un châtiment, ça peut avoir des colorations très diverses.
Métamorphoses qui ont assuré à Ovide une incroyable renommée de son vivant, plus encore que ses écrits amoureux, lui ont donné une postérité. On ne compte plus les peintres qui ont représenté Diane, Europe ou Léda, et dans des poses où l'esprit de l'art d'aimer n'est pas absent. Mais c'est peut-être chez les musiciens que l'on trouve l'inspiration la plus constante, la plus diverse. De Monteverdi à Britten, d'Handel au frère Jacques, La piste au vide nous conduit de surprise en surprise. François-Xavier Chimchak, vous êtes producteur à France Musique et musicien. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler et apprécier les métamorphoses ou des épisodes musicaux extraits ou inspirés par les métamorphoses?
Tout d'abord, la lecture des métamorphoses dans mon adolescence, qui a été un de mes livres de chevet. Et puis en tant que musicien, l'évidence même de certains thèmes qui apparaissent de façon presque quasi innombrable, il suffit de citer le personnage le plus musicien des métamorphoses, qui est Orphée, évidemment. Et Orphée, ben, c'est l'un des tout premiers opéras, sinon le tout premier, l'Orfeo de Monteverdi. Et ça va jusqu'à l'Orphée de Pierre-Henri en 1951. Et en passant par Gluck, en passant par Offenbach. Donc déjà rien qu'avec ce personnage-là, on a 4-5 siècles de musique dans lesquels il est évoqué de façon assez régulière. Donc de toute façon, si on s'intéresse peu ou prou à la musique, à l'histoire de la musique classique, entre guillemets, on tombe forcément, et en particulier la musique baroque, on tombe forcément sur Ovide, presque aussi facilement qu'on peut tomber sur Homère, par exemple, en évocation de la guerre de Troie. Le thème des métamorphoses engendrées par Diane, ou bien qu'elle-même vit, c'est un thème que j'aime beaucoup, et en plus qui a été évoqué de nombreuses fois en musique, Diane et Actéon par exemple, cette transformation du chasseur Actéon transformé en cerf, on la retrouve dans des partitions qui sont vraiment très, très touchantes, comme par exemple le Actéon de Marc-Antoine Charpentier, où on a vraiment à peu près tous les ingrédients des métamorphoses, mais en plus une très très grande émotion, c'est-à-dire que la musique pendant la métamorphose d'Actéon se métamorphose elle-même, et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand le musicien se contente pas de d'écrire, d'évoquer la métamorphose comme un élément décoratif, mais quand en plus la musique se métamorphose, c'est là que ça devient vraiment, vraiment très intéressant.
En dehors même de la thématique mythologique, la notion même de métamorphose a-t-elle une influence sur la forme musicale ?
Ce qui est surtout intéressant, c'est la façon dont les métamorphoses ont pu changer certaines musiques, et que certaines musiques se sont adaptées, point de vue de la forme, dans les métamorphoses. Je vais donner un exemple, deux exemples même qui viennent de la musique du XXe siècle. C'est les métamorphoses de Benjamin Britten, qui date de, je ne sais plus, 50-51, quelque chose comme ça, pour hautbois seul. Et il y a une pièce, je crois que c'est la cinquième, qui évoque Narcisse. Donc Narcisse se contemplant dans l'eau et qui se transforme en fleur. Et Benjamin Britten présente une mélodie qui est ensuite présentée en renversement. Donc on a un effet de miroir, c'est entre guillemets une musique spéculaire, exactement comme dans le mythe.
Comme Narcisse se mirant dans l'eau. Oui.
Exactement, exactement. Et autre exemple, Karol Szymanowski, très grand compositeur polonais de l'entre-deux-guerres, écrit une pièce pour violon et piano qui s'appelle La Fontaine d'Arétuse. Donc c'est la nymphe Arétuse qui est poursuivie par le géant, le fleuve Alphée, et qui se transforme en source. Et là, idem, la musique est complètement aquatique, avec une mélodie qui est très, très, très fluide, généralement au violon, donc, qui représente cette source, et puis l'harmonie beaucoup plus dense, qui est le fleuve qui la poursuit, qui finalement va la rejoindre dans un acte d'amour très, très sensuel, très, très érotique, comme d'ailleurs la description que Ovide fait d'Arétus, qui est nu, qui se peigne dans l'eau, etc.
Alors la métamorphose, c'est aussi un grand thème baroque, hein, puisqu'on est à la frontière de l'humain et du divin. On est dans le passage de l'un à l'autre, le changement de condition. C'est quand même très inspirant pour tout l'opéra du XVIIe et du XVIIIe.
Oui, ça c'est évident que Ovide a essentiellement inspiré ses compositeurs de cette époque-là. Et il y a un exemple vraiment qui je trouve très représentatif, c'est un opéra vénitien milieu XVIIe, c'est la Callisto de Francesco Cavalli, c'est vraiment une merveille de l'histoire de la musique. Et dedans, les métamorphoses s'entrecroisent. Tout le monde se métamorphose. Jupiter veut séduire Callisto, il se transforme en Diane, puisque Callisto est une compagne de Diane. Junon est furieuse, évidemment. Diane, pendant ce temps-là, voit Endymion, elle se transforme en rayon de lune. Et puis finalement, c'est Callisto qui est transformé en ours. Donc le librettiste de Cavalli.
Et puis en constellation,
là, en grande dose, exactement. Donc le librettiste de Cavalli s'est même pas contenté de prendre une métamorphose, il en a pris plusieurs et il les a mélangés. Et tout ça fait s'entrecroiser donc, dans le texte. Des métamorphoses multiples, et la musique suit tout ça, suit ces ornementations, ces croisements dans un tissu musical qui est absolument magnifique. Et bon, voilà, c'est un régal pour les metteurs en scène qui se lancent dans cette aventure de la Callisto de Francesco Cavalli.
Écrivain phare de l'Antiquité, Ovide ne sera jamais oublié. Mais il connaît un relatif purgatoire, suivi au XIIe siècle d'une sorte de réhabilitation. Jean-Yves Tilliette, vous êtes un spécialiste de la littérature latine médiévale. Comment expliquez-vous le fait que, après des siècles d'éclipses dominées par les figures de Virgile ou d'Horace, le Moyen-Âge redécouvre sur le tard Ovide ?
Le XIIe siècle, c'est l'époque où la culture s'ouvre à des savoirs plus laïques, plus profanes. C'est la période où, grâce notamment au contact avec les mondes orientaux et les sciences naturelles qui arrivent par le canal des Arabes, on redécouvre la beauté du monde dans toutes ses chatoyances. Et c'est cette profusion, cette richesse du monde qu'on découvre peut-être dans les métamorphoses. Par ailleurs, c'est aussi l'époque où la littérature en langue vulgaire, comme on dit, commence à prendre son essor, où cette littérature chante des poèmes d'amour et raconte des histoires de chevalerie. Or, quel meilleur modèle pour l'expression du sentiment amoureux que toute la partie de l'œuvre d'Ovide constituée par l'art d'aimer, les héroïdes, les amours, et quel plus extraordinaire réservoir de récits, de narration, que les quelques 250 fables que racontent les métamorphoses. C'est ainsi que Ovide s'impose, en somme, sur le devant de la scène culturelle au cours de cet âge d'Ovide, cet aetas ovidiana, comme on dit en latin, et que, en particulier, les premiers poèmes d'amour profane en ancien français, en langue vulgaire, seront des traductions d'Ovide.
Un peu plus tard est composé en français ce poème énorme. Il compte environ 72 000 vers, l'Ovide moralisé. Jean-Yves Tilliette, qu'est-ce que c'est que cette œuvre incroyable ?
C'est d'abord une traduction. Le projet authentique de l'auteur de l'Ovide moralisé est d'associer à chacun des épisodes qui constituent les métamorphoses leur traduction en langage chrétien. Et c'est ainsi que, de façon pour nous extrêmement surprenante, pour ne pas dire bizarre, mais déjà Rabelais se moquait de l'entreprise, chacun des épisodes des métamorphoses va se voir affecter une signification chrétienne. Par exemple, le supplice d'Actéon déchiqueté par ses chiens sera assimilé à la passion du Christ. Et cela sur la base de plusieurs correspondances analogiques assez curieuses. Les cornes qui poussent au front d'Actéon sont assimilées par le poète à la couronne d'épines. Ou encore, pour évoquer donc les chiens qui le déchirent, notre poète se réfère à un passage du psaume 21 qui est lu le jour du Vendredi Saint, donc lors de la cérémonie de la mort du Christ. Passage du psaume 21 qui dit « Circumdederot mécanes, des chiens m'ont entouré ». On pourrait prendre quantité d'autres exemples. L'épisode au champ 10 des métamorphoses de l'inceste entre Myrrha et son père Siniras est assimilé à l'amour qui meut l'âme, la créature, vers le père céleste, et ainsi de suite.
Oui, le changement de sexe de Tirésias est aussi...
Un emblème parfait de conversion. Tirésias est devenu femme, puis redevenu homme, et le moralisateur y voit un modèle, par exemple, d'une sainte pénitente comme Marie-Madeleine, qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs saintes pénitentes du même genre, qui s'est métaphoriquement, quant à elle, armée d'un courage viril pour, au moment où elle s'est convertie, proclamer sa foi. La moralisation d'Ovide n'est pas simplement, comment dire, une manière d'alibi pour pouvoir lire avec en toute bonne conscience un auteur qu'on aime. C'est aussi l'idée que Dieu étant présent dans toutes les choses créées, y compris dans les choses créées par les hommes, c'est lui qui s'exprime de façon obscure, confuse, indirecte, voilée peut-être, dans les œuvres, les grandes œuvres poétiques des hommes, y compris l'Énéide, auquel on a fait subir le même traitement, ou les Métamorphoses.
Entrez ! Entrez ! Bonjour, monsieur le mari, je suis correspondant d'un journal de Paris.
De Paris, soyez le bienvenu.
Les journaux de Paris ont annoncé que vous avez trouvé le moyen pour les hommes de faire des enfants.
Cela est vrai.
Et comment ça ?
La volonté, monsieur, elle nous mène à tout.
Et si notre époque, toute d'instabilité et de mutation, était, elle aussi, un âge d'Ovide ? Si on est tout naturellement amené à citer la métamorphose de Kafka, on trouve des allusions, des emprunts, des citations même, chez des contemporains du monde entier. On pourrait en compter des dizaines. Mais très significatives à cet égard sont les démarches d'auteurs tels que l'Autrichien Christophe Ransmeyer, l'Italien Antonio Tabucchi, ou plus récemment, la Japonaise Yoko Tawada.
Tabucchi rêve qu'Ovide rêve. Ovide est en exil et il rêve qu'il revient à Rome, mais il y revient métamorphosé en papillon, et aussi à faune, ou pratiquement à faune. Et quand il doit dire ses poèmes, c'est qu'une voix atroce qui sort de sa bouche.
Et, Christine Montalbetti.
Et du coup, en guise de punition, et on lui coupe les ailes et il n'est plus qu'une espèce de corps de papillon horrible, déchiqueté et défait de ses ailes. Dans le texte de Tabucchi, on voit comment, d'une manière extrêmement simple, Tabucchi reprend deux motifs de deux textes de vie, donc les métamorphoses et les textes sur l'exil, pour créer comme ça une figure d'auteur à travers ce rêve. Il y a aussi une expérience assez originale qui a été faite par Yoko Tawada, qui a publié un livre qui s'intitule « Opium pour Ovide ». Ce qui intéresse Yoko Tawada, c'est essentiellement le travail de la métamorphose. On pourrait dire qu'en général, ces textes sont comme une illustration du discours de Pythagore à la fin des métamorphoses, discours dans lequel Pythagore insiste sur l'instabilité. Et toute l'œuvre de Yoko Tawada est comme une illustration de cette instabilité, et en particulier à travers la question du corps. Alors dans Opium pour Ovide, elle utilise les noms des personnages des métamorphoses, mais pour les attribuer à des femmes qui vivent à Hambourg. Et donc il y a un jeu entre des expériences contemporaines et ce motif-là explicitement rapporté à Ovide, de la métamorphose du corps qui est aussi liée à l'instabilité de l'univers.
Je t'aime. je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Narcisse lui répond sans s'émouvoir.
Veux-tu me prêter ton miroir dans la chambre?
Vers le milieu des années 80, un jeune écrivain doit écrire un article sur Ovid. Ce projet deviendra le dernier des mondes. Jean-Pierre Lefebvre, vous avez traduit ce roman. Dans quelles conditions a-t-il été écrit ?
Hans Mayer s'est exilé. Donc lui, il est de Vienne. Il s'est exilé donc dans un village, un petit port, si je me souviens bien, sur la côte orientale de la Grèce. Donc pas très loin des Dardanelles et du biotope du roman. Et il a commencé à travailler au projet qui lui avait été commandé donc par Enzensberger sur les métamorphoses d'Ovid. Et au bout d'un certain temps, il a fait le constat qu'il n'y parvenait pas. Enfin, il avait beaucoup de mal à réaliser ce projet tel qu'il avait été défini dans un premier temps. Et il s'est produit alors une espèce de retournement, une espèce de grand article sur un écrivain latin est devenu un roman qui a mêlé évidemment l'objet initial, c'est-à-dire les métamorphoses d'Ovide, l'histoire d'Ovide, l'histoire de l'exil d'Ovide, et ce long séjour de Hans Mayer dans cette espèce d'exil grec, loin de tout, loin de toute civilisation, loin non pas de Rome mais de Vienne, mais avec la possibilité d'attribuer à cette distance le même sens, celui de l'immersion dans un univers nouveau, lointain, hostile, inquiétant, qui paradoxalement lui a peut-être permis de retrouver, mieux que ne l'aurait fait une démarche plus abstraite, ce qu'avait pu être concrètement pour Ovid l'exil.
Ovid, dans son exil, finalement, il va retrouver les personnages qu'il a lui-même décrits, de l'œuvre qu'il a lui-même détruite. En fin de compte, en voulant fuir son œuvre, il la retrouve.
Oui, la littérature redécouvre la réalité, enfin restitue la réalité ou la conserve. Et la littérature est retrouvée performativement dans la réécriture des mythes, dans un temps qui est celui de la fin du XXe siècle, mais du XXe siècle en ce qu'il se penche sur son passé récent. Donc pour un Autrichien, c'est le nazisme. Il faut bien voir que tout ça s'écrit dans la période Waldheim, dans une période où l'Autriche est très concernée par sa participation, contrairement au mythe fondateur de la République autrichienne, d'après-guerre. Le pays a été annexé, oui, mais enfin le pays n'a pas été seulement annexé, il a aussi participé très activement à la chose. Et donc le regard sur le passé immédiat est très important, dans le même temps que il faut bien voir que l'Autriche a été rattachée à un Reich, c'est-à-dire à un empire. Ouais. Hein. Et donc les figures matricielles en quelque sorte de l'empereur pour le Troisième Reich, hein, quelque part, y compris dans tout son appareil architectural, c'est toutes ses mises en scène, etc., quelque part ont leur origine dans les différentes formes de l'Empire romain. Et donc, ce rapport au passé est un rapport historique, en même temps, c'est aussi le rapport de la littérature à la réalité, et donc c'est aussi la question de la place de la littérature dans l'histoire. C'est ce qui trame, en quelque sorte, le fond politique du livre, malgré tout.
En l'an 8 de notre ère, Ovid a 50 ans. Il est au sommet de sa carrière, il met la dernière main aux métamorphoses quand il est frappé d'un décret de relégation à Tomes, au bord de la mer Noire, qu'on appelait alors le pont. Daniel Robert, quelle est la cause de cette mesure d'une extrême sévérité qui a suscité tant d'hypothèses ?
Il y a deux raisons invoquées à cet exil par Auguste. C'est l'immoralité de l'art d'aimer qui avait 10 ans d'existence et qui n'avait jamais donné lieu à la moindre poursuite. Donc c'est un peu sujet à caution. Et une autre cause tout à fait inconnue, obscure, sur laquelle Ovid revient souvent dans les Tristes et les Lettres du Pont, mais il dit lui-même qu'il ne peut pas parler de cette raison. Il dit « Bien que deux accusations m'aient perdu, un poème et une erreur, je ne peux parler de la faute qui concerne la seconde. » Alors, évidemment, tout le monde, tous les exégètes se sont posé la question de savoir que pouvait être cette faute. À plusieurs reprises, il dit que c'est une sottise, une négligence, en aucun cas un crime de sang, mais il ne peut absolument pas dire de quoi il s'agit. Qu'il y ait eu quelque chose, sans doute, mais on ne saura jamais ce que c'était exactement. Par ailleurs, il dit également fréquemment « Pourquoi ai-je vu ? Pourquoi ai-je fait de mes yeux des coupables ? Et mon seul tort est d'avoir eu des yeux. » Donc là-dessus, on s'est dit « Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. » Et il y a eu beaucoup d'hypothèses émises à ce sujet. Est-ce qu'il avait vu l'impératrice Livie dans son bain ? Certains ont affirmé ce qui paraît assez peu probable. Est-ce qu'il a assisté à un adultère entre la femme de Messala et l'empereur ? Enfin, toutes sortes de potins, finalement, se sont ajoutés les uns aux autres pour essayer de trouver, à expliciter cette raison. Personne n'est jamais arrivé à le faire vraiment. J'aurais tendance, moi, à penser que ce n'est ni l'art d'aimer, ni une sottise quelconque qui peuvent expliquer un exil de ce type, surtout un exil aussi lointain. Parce que Tom, quand même, c'est sur les bords de la mer Noire, c'est l'actuelle Constanza, c'était le bout du monde à l'époque. Personne jamais n'avait été relégué aussi loin, même des gens qui avaient attenté à la vie de l'empereur. Auguste était connu pour sa clémence, et il a effectivement accordé sa clémence à des gens qui avaient voulu le tuer. Et là, il relègue Ovid sans rien, sans sa fortune, sans sa famille, sur les rives de la mer Noire, et il ne le gracie jamais, et son successeur Tibère ne le fera jamais revenir non plus. Ovid mourra à 60 ans, à Tom, et ses cendres même ne seront pas ramenées à Rome. Donc il y a une sorte d'exécration, de mise à l'écart de ce poète. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il faut que la raison ait été très grave pour l'empereur, pour qu'il en arrive là. Or, qu'est-ce qui pouvait être plus grave, même qu'attenter à sa vie ? C'était d'ébranler sa puissance, d'ébranler son pouvoir. Et bien sûr, Ovid n'est pas un militant, n'est pas un combattant, n'est pas un terroriste, il n'a jamais fait... explicitement quelque chose contre le pouvoir, mais son œuvre est là qui dérange, qui est subversive, qu'on le veuille ou non, ne va pas dans le sens de ce que souhaitait l'empereur, c'est-à-dire que Ovid est un poète qui s'adresse à l'homme en tant qu'individu, et il dit à chaque individu de l'Empire romain, tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, de penser ce que tu veux.
Alors, il est en exil, donc, aux bouches du Danube. Effectivement, on ne pouvait pas trouver plus loin. Il est en contact... avec les peuples qui sont des barbares. Il est dans une ville où on ne parle pas latin, un peu de grec probablement.
Le Gète.
Et voilà, il est dans le territoire des Gètes, ce qui est un peuple qui se trouverait en Moldavie aujourd'hui à peu près. Et il continue à écrire quand même, alors, mais il écrit des textes différents.
Il écrit des lettres. Surtout, il remanie les Métamorphoses constamment parce que lorsqu'il est parti en exil, il considérait que son œuvre était inachevée. Il en a brûlé une partie Mais évidemment, il y avait beaucoup de copies qui circulaient dans Rome et ses amis et sa famille ont conservé les copies de l'œuvre. Et à la fois, il leur demande de Tom de supprimer cette œuvre qui n'est pas suffisamment parfaite pour passer à la postérité. Et en même temps, il leur envoie des corrections. Il leur dit, voilà, à tel endroit, il faut mettre ceci, cela. Donc, il tient à cette œuvre malgré tout. Et parallèlement, donc, il écrit beaucoup de lettres en vers qui sont destinées à la publication, qu'il adresse à sa famille, à ses amis, à ses ennemis aussi, et à l'empereur lui-même, pour le supplier de le faire revenir à Rome. Et là, les deux recueils de la fin de sa vie, Les Tristes et Les Lettres du Pont, sont très poignantes et très, ont un caractère de gravité, de profondeur vraiment, vraiment extraordinaire.
Il est même à un moment amené à se demander s'il va pouvoir continuer à écrire en latin.
Oui, il se plaint à plusieurs reprises du fait qu'il ne peut plus parler sa langue. Il a appris la langue des Gètes, il écrit même des vers en Gètes, mais il souffre de ne plus pouvoir communiquer en latin. Et progressivement, les plaintes sont de plus en plus douloureuses et vers la fin des Lettres du Pont, il dit qu'il a perdu non seulement sa langue, mais son inspiration. Et il pense qu'il ne pourra plus écrire. Et donc, il est près de la mort. Et effectivement, il meurt très peu de temps après.
Au moment même où il voit sa vie et son œuvre lui échapper, Ovide écrit des textes où, paradoxalement, s'affirme le plus intensément son engagement dans l'écriture, son souci du destin de ses livres, jusque dans leurs aspects les plus concrets.
Un des aspects de ces textes qui m'a touchée, c'est la manière dont il ne cesse de mettre en scène le livre.
Christine Montalbetti.
L'objet livre dans sa matérialité, la manière dont Ovide même parfois s'adresse à son livre, parce que son livre va faire ce trajet vers Rome qu'il souhaiterait tellement pouvoir faire lui-même. Il lui donne même des conseils pour son arrivée à Rome. Et voilà, il y a une manière de mettre en scène comme ça la matérialité du livre, je crois, qui est très émouvante, et aussi la manière dont il met aussi constamment en scène le geste même d'écrire, même dans ses conditions très matérielles. Il évoque les conditions de l'écriture à Rome, qui étaient celles du jardin, ou celles de ce qu'il appelle son divan favori, et puis il leur oppose ces conditions d'écriture d'abord au milieu des flots pendant son trajet jusqu'à sa terre d'exil, et puis ensuite, une fois qu'il est sur cette terre d'exil, dans le cliquetis des armes, puisque ce qui le hante en particulier sur cette terre, c'est la manière dont il est entouré d'individus armés. Et donc il y a cette récurrence comme ça du motif du fracas des armes qui forme son univers sonore.
Il y a aussi dans le livre 4 des Tristes un court passage où il dit « Je voudrais bien sûr ne jamais être entré, puisque cela devait me nuire, dans le mystère des Pierides. »
Les Pierides, ce sont les muses en fait.
Ce sont les muses. Mais que faire aujourd'hui? La puissance de ce mystère me tient et meurtri par la poésie, j'aime la poésie comme un fou. Il dit ça et peu à peu, il dit « Je ne peux plus écrire de poésie. »
Ovide, l'amour des métamorphoses, avec Danielle Robert, traductrice des œuvres d'Ovide aux éditions Actes Sud, Christine Montalbetti, romancière, maître de conférences à l'Université de Paris 8 Vincennes, Jean-Yves Tilliette, professeur à l'Université de Genève, Jean-Pierre Lefebvre, professeur à l'École normale supérieure, traducteur, et François-Xavier Chimchak, producteur à France Musique. Prise de son Patrick Muller, Yves Baudry, Philippe Carminati, Marie-Thérèse Ferrand, Tanguy Le Corneau, mixage Catherine Dereté, une émission d'Alain Nicolas et Laetitia Coya.
Ovide, clin d'œil aux amoureux et à ceux qui ne manqueront pas de le devenir grâce aux conseils avisés de ce grand professeur. Merci à Alain Nicolas et Laetitia Coya pour ce documentaire. Et la semaine prochaine, rendez-vous avec un écrivain de langue anglaise mais d'origine polonaise. Il s'agit de Joseph Conrad et c'est Simone Dweck qui va retracer sa vie et analyser son œuvre. La semaine prochaine donc. D'ici là, bonne matinée à tous à l'écoute de France Culture.